Bonsoir, nous allons invoquer le nom du Seigneur Jésus. Notre Dieu, nous te remercions pour les moments merveilleux que nous pouvons passer autour de ta parole, pour l'étudier, afin de nous préparer pour ta venue. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce que nous t'écoutons, toi, notre seul Maître. Merci, Jésus. Amen. Très important de savoir qui on écoute. Amen. Très important. Apocalypse chapitre 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. On revient un petit peu en arrière, quand Jésus se présenta devant Jean-Baptiste, Jean a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean ne connaissait pas Jésus, son cousin. Cependant, Jean et Jésus s'étaient rencontrés. Je ne sais pas si vous le savez. C'est pendant qu'ils étaient tous les deux dans le ventre de leur mère. On trouve ça dans Luc chapitre 1, verset 44. Jean-Baptiste a été informé, là, que son cousin Jésus était d'origine divine. Il a tressailli dans le ventre de sa mère. Quand le bébé d'Élisabeth est venu au monde, il a reçu un prénom, Jean, et l'ordre de lui donner ce prénom avait été donné par l'ange à son papa, Zacharie, son père. L'ange se tenait, vous vous rappelez, à droite de l'autel des parfums, et là il a reçu un prénom. Jésus aussi avait un prénom, Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Pourquoi est-ce que je dis que Emmanuel était son prénom? Parce qu'il avait été donné avant. Le préfixe « pré », ça veut dire « avant ». Il avait été donné avant son nom par le prophète Ésaïe, au chapitre 7, verset 14. Hein. Mais l'ange précisa que le prénom était la signification de ce que l'enfant serait, c'est-à-dire Dieu avec nous. Emmanuel était le prénom et Jésus était le nom que... qu'il est venu révéler. Je leur ai révélé ton nom, Père. Quand vous avez vu le Père, j'aurais révélé ton nom. Nous avons donc, tous, nous aussi, un prénom. Alors, on pense couramment que notre nom, par exemple, moi c'est Janton, et puis le prénom, c'est c'est Michel, mais c'est pas ça la réalité, parce que les noms de famille, c'est pas très vieux. Par exemple, Janton, ça date des années 900, juste avant ce millénaire. C'est un des plus vieux noms français. On le retrouve, dans les croisades, des tout premiers. Mais prénom, ça ne veut pas dire que c'est le nom qui vient avant le nom de famille. Nous avons tous un prénom qui signifie ce que nous allons faire et être sur terre. Jusqu'au moment où nous allons recevoir notre nom. Ton nom, Dominique, c'est pas Dominique. Dominique, c'était ton prénom qui signifie ce que tu vas être, il t'a été donné pour que tu... cela marque ta vie, hein, à chacun de nous, la même chose. Soyez un peu curieux, allez voir la signification de votre nom, votre prénom, pardon. Vous allez tous être très étonnés de voir que, oulala, ça correspond, c'est quelque chose de phénoménal. Est-ce que vous avez déjà eu l'idée de faire ça? N'allez pas que sur un site, allez sur plusieurs, vous allez voir. Soyez curieux, allez voir quelle est la signification de votre prénom. Votre prénom ne vous a pas été donné par hasard. Il n'y a pas de hasard. Le prénom que vous recevez, c'est celui que vous devez avoir. Et votre vie, elle va consister à faire et à être ce qui est nécessaire pour arriver à votre nom unique, que Dieu seul et vous connaissez. Vous ne le connaissez pas encore maintenant, c'est-à-dire que vous l'avez connu, mais vous l'avez oublié. Quand vous êtes venu sur Terre, vous avez oublié votre nom, et quand vous allez le recevoir, vous allez vous en souvenir. Bien sûr, vous avez oublié ce nom, mais votre prénom vous met sur la voie pour retrouver votre nom. C'est en apprenant ce que signifie mon prénom que j'apprends le positif et le négatif sur ma vie. N'allez pas regarder qu'est-ce que ça signifie Michel, c'est un peu... Ça me décrit vraiment, c'est terrible. Et heureusement que j'y trouve quelque chose, parce que je peux corriger les côtés négatifs. Vous voyez, je peux corriger les côtés négatifs. Lorsque nous recevons un prénom, notre vie, elle est marquée. À tel point que, par exemple, chez les Juifs, les gens qui ont un prénom et puis qui ont la Shkoumoun, qui sont pas bien, que ça va pas bien dans leur vie et tout, ils vont voir le rabbin. Il y a toute une cérémonie qui est faite pour qu'on change leur prénom. Vous saviez ça? Jean a reçu le sien, et une des significations du prénom Jean, c'est il apprécie être le centre d'attraction. Et il aime donner l'exemple. Eh bien, c'est ce que Jean le Baptiseur a fait. Il a été un véritable centre d'attraction. Et à tel point il y a eu un avant Jean et un après Jean. C'est Jésus qui le dit, hein. Il dit, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Depuis Jean, c'est différent. Matthieu 11, 13, si je me souviens bien. Il y a eu un avant et un après Jean. Jean a été le point d'attraction, et voilà, la loi et les prophètes, c'est terminé. Maintenant, ceux qui se prennent pour des prophètes de l'Ancien Testament, ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Les prophètes du Nouveau Testament n'ont rien à voir avec les prophètes de l'Ancien Testament. C'est un manque de connaissances, c'est l'illusionnisme. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà ce que Jean le Baptiste était venu dire, et Jean était un donneur de leçons, il donnait des leçons, et par ses paroles, par sa vie, d'ailleurs, ça lui a coûté la vie, hein, de donner des leçons. Vous connaissez l'histoire de Jean, je parle de Jean-Baptiste. Vous voyez, nous avons un prénom et nous avons un nom que nous recevrons lorsque nous aurons accompli pleinement ce prénom que nous avons ici-bas sur cette terre, et nous aurons corrigé les choses qui doivent être corrigées et magnifié celles qui doivent être magnifiées. Deux identités donc. Et en ce moment, nous sommes dans notre identité mortelle avec notre prénom. Jean-Baptiste imposait son individualisme, il n'était vraiment pas comme les autres, hein, Jean-Baptiste, jusqu'au jour où il est devenu conscient de la présence de son Seigneur, de son Maître, de celui qui était plus grand, dont il n'était pas même digne de délier les sandales. Et c'est ce que chacun de nous est appelé aussi à vivre dans sa vie. Quand Jean a rencontré Jésus la première fois, il a bondi dans le ventre de sa mère, et quand il l'a rencontré d'homme à homme, il s'est effacé. Il a dit, il faut que il croisse et que je diminue. Et nous avons aussi, nous, à nous effacer, à ne plus nous contenter de notre prénom qui n'est que, en quelque sorte, la prophétie de ce que nous sommes ici-bas. Ce prénom, vous devez connaître sa signification pour connaître votre caractère, vos dispositions, vos tares aussi, et corriger et magnifier ce qui doit l'être. Nous avons à corriger ce qui doit l'être, afin de recevoir notre caillou blanc avec notre vrai nom. Le renoncement. Le renoncement. Renoncer à soi-même, acceptant d'être rejeté, voire décapité. Parce que Jean, il a accepté d'être, de renoncer, et ça a été jusque à la décapitation. Avant Jean, il y avait la prophétie, il y avait des prophètes, il y avait la loi. Après Jean est donc venu, et après Jean, il y a eu la grâce par le Fils de Dieu, portant le nom de son Père céleste. D'accord? C'est clair. Et Jean a été décapité, c'est-à-dire que ça a été un changement de tête. C'est du symbolisme que je vous donne là, hein. C'est du symbolisme. Mais c'est une réalité quand même. Voilà pourquoi le vrai christianisme n'est pas cette espèce de christianisme qu'on nous enseigne et qu'on nous donne maintenant dans les églises, celui de l'abondance, etc., etc. Mais c'est celui de la mort à soi-même. C'est ça, le vrai christianisme. Si tu meurs à toi-même, alors tu vivras l'abondance de tout. Mais il faut d'abord passer par la mort. Nous devons vivre cela personnellement. Mais l'humanité entière, en fait, est en train de le vivre. L'humanité entière est en train de mourir. La mort s'est installée. Et le bouleversement est partout. Et ce bouleversement est un processus de destruction des valeurs. Et ça a mis l'humanité animale, sans Dieu, à l'apogée de sa décrépitude, Et nous sommes à la veille d'une renaissance, d'une nouvelle terre, d'un nouveau ciel. Et le septième jour, la Bible dit, Dieu acheva son œuvre. C'est dans Genèse 2,2 qu'il dit ça. Et ça va avoir lieu de nouveau. Mais le mot achevé, quand il dit il acheva son œuvre, sera le sens de détruire. Il va l'achever. Il va la tuer. Il va l'anéantir. Il va l'achever. Il va achever son œuvre. Et il fera de nouveaux cieux et de nouvelles terres, et une nouvelle terre où le mal n'existera plus. Ça, c'est à l'échelle de l'immensément grand de l'univers, mais ça doit aussi être à notre échelle. C'est-à-dire que nous devons passer par ce renoncement volontaire, et alors à ce moment-là, Dieu peut nous achever. Pas seulement nous achever en disant, voilà, vous allez devenir des disciples accomplis, mais nous achever, achever notre chair, vous allez nous massacrer, nous tuer, nous décapiter, et faire que nous soyons vraiment remplis du Saint-Esprit. Et non, quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est plus notre esprit, hein, c'est plus la chair. De nos jours, Dieu travaille au déblaiement de la semence divine qui est recouverte de boue et d'excréments. Voilà l'état aujourd'hui, livré et mûr, elle étouffe presque le bon grain, c'est épouvantable. L'amertume, la rancœur, tout ça a donné des rejetons, ça a envahi le monde, mais ça a envahi l'église, les églises, et le cœur de ceux qui ne se gardent pas eux-mêmes est envahi par toutes sortes de rancunes, de rancœurs, de ressentiments, et ils nagent dans cette mélasse. C'est épouvantable. Tout cela doit mourir pour renaître. Tout, non pas tout. Pas tout. Ce que Dieu aime va renaître. Le reste va être brûlé, détruit, anéanti. Anéanti. Aujourd'hui, la vraie semence de Dieu, c'est comme les puits qu'Abraham avait creusés, mais que des malfaiteurs ont couvert de saleté. Isaac les dégage et Jacob, Israël, va être content. Quand je dis Israël, c'est Israël, mais c'est aussi le vrai Israël, c'est-à-dire ceux qui sont de la véritable Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire de l'Église qui ressemble le plus à l'Église telle qu'elle était au commencement, avec l'amour, avec le don de soi-même, avec l'honnêteté, c'est pas la tristesse non plus, hein. On disait avant, je me rappelle, on disait il y a la vie au champ et il y a la vie austère. Non, mais la vie communautaire. Non, la vie communautaire n'est pas une vie austère, mais c'est une vie quand même de sainteté, de mise à part. Et vous qui êtes la semence de Dieu, votre vie n'a de sens que dans la réalisation de votre ressemblance à Dieu. Je vous en ai parlé encore dernièrement. Et pour ressembler à Dieu, nous devons muter. Nous devons muter, changer. Donc la Bible nous dit, le septième jour, Dieu s'est retiré pour se reposer. Et depuis, ben, il ne regarde que ceux qui se tournent vers lui. Voilà. Il ne châtie même pas les méchants, il châtie seulement les siens. Ceux qui le regardent, ceux qui se tournent vers lui. Si quelqu'un est méchant, mais qu'il n'est pas châtié, c'est qu'il ne lui appartient pas. Dieu a créé Adam et Ève le sixième jour, c'est bien comme ça que c'est écrit, avec les animaux, tout ça. Et puis Dieu se reposa le septième jour. mais ce n'est qu'après son repos qu'il a soufflé un esprit dans l'homme. Et puis il a planté un jardin, le jardin d'Éden, et il a mis l'homme qu'il avait créé le sixième jour, il l'a mis là-dedans. Genèse 2,15. Alors, vous pouvez comprendre ça autrement. On peut le comprendre autrement. Si vous le comprenez autrement que moi, ça n'a aucune espèce d'importance. Je ne suis pas là pour que vous croyiez absolument tout ce que je crois. Moi, je le crois comme ça, je vous le dis comme ça, mais vous n'êtes pas obligé de le croire comme ça. Ça ne changera rien à votre salut de croire que Dieu a créé l'homme le sixième jour et que c'est le septième jour qu'il a mis son esprit en lui. D'accord? Qu'il a mis un esprit en lui. Pour ma part, je vois ça comme ça. Mais comme pour beaucoup d'autres doctrines, je ne vous ai jamais obligé à croire toutes mes doctrines. Ça, tout le monde est témoin de ça. Dieu crée Adam sur la terre, puis il le place dans le jardin. Ça, c'est indéniable. Eh bien, il en est de même pour nous, mes frères et sœurs. Nous sommes venus sur la terre, et ce n'est qu'à la nouvelle naissance que nous sommes entrés dans le jardin, c'est-à-dire dans l'Église, c'est-à-dire là où se trouve l'arbre de la vie, et nous pouvons en manger, le pain et le vin. Hein, c'est la véritable nourriture. Mon corps, mon sang, c'est une véritable nourriture. C'est le jardin d'Éden, c'est un jardin de jouissance. Dans ce jardin, dans l'Église, nous avons accès donc à l'arbre de vie. Adam, placé dans le jardin, était en voie de connaître. Et nous aussi, nous sommes en voie de connaître. De connaître comme nous avons été connus. Lui, il était en voie de connaître le bien et le mal, et nous, on est en voie de connaître comme nous avons été connus. Nous ne sommes donc pas au même plan qu'Adam, sur certains points, oui, mais sur certains points, non. Nous avons avancé, puisqu'il y a un nouvel Adam qui est venu, qui nous a mis plus loin. Alors, on plonge nos racines maintenant dans le ciel, c'est-à-dire dans les eaux d'en haut, dans la parole d'en haut, ou si vous préférez, nous commençons à chercher cette manne cachée qui doit être révélée à la fin, hein, dont le verset que j'ai lu au commencement parle. Pour le moment, notre foi, elle passe par la compréhension des Écritures. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et ça se passe dans la méditation, dans la réflexion, ça se passe dans le crâne. Et c'est très bien que ce soit comme ça, mais c'est très limité quand même, le crâne. Hein. Très limité. Mais quand même. On peut comprendre pas mal de choses. Mais vous avez des petits crânes, puis vous avez des crânes. Voilà. Il y a de tout. Et je voudrais vous parler ce soir d'un baptême qui n'est pas nouveau, qui est biblique, mais dont personne ne parle. Je n'ai jamais entendu un prédicateur parler de ça. Je vous ai parlé du baptême d'eau, je vous ai parlé du baptême dans le Saint-Esprit, je vous ai parlé du baptême pour les morts. Il y a un autre baptême aussi. C'est le baptême du crâne. Un baptême que Jésus a vécu en mourant à Golgotha. Golgotha signifie le lieu du crâne. Ce baptême du crâne, les évangéliques n'en parlent pas. Je connais juste une femme qui en parle, qui en a parlé. Elle s'appelle Annick de Souzenel. Une femme formidable. Tout ce qu'elle dit, c'est pas facile d'accès, mais c'est formidable. C'est la seule. Ça fait plus de 40 ans hein, que je suis chrétien. J'ai jamais entendu parler de ce baptême du crâne, de notre Golgotha. Pourtant, Jésus a dit, vous ne pouvez pas boire la coupe que je dois boire et être baptisé du baptême dont je vais être baptisé. Vous vous rappelez qu'il a dit ça? Et les disciples répondirent, oui, nous pouvons être baptisés du baptême dont tu vas être baptisé. Et Jésus dit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Ça, c'est dans Marc 10, 38, 39. Pensez-vous que ce ne sont que les 12 qui ont eu ce privilège de boire cette coupe et d'être baptisés de ce baptême, du baptême du crâne, du baptême de la mort? Non, mes frères et sœurs, tout disciple doit passer par ce baptême. Tous ceux qui veulent suivre Jésus doivent aller à Golgotha, doivent prendre leur croix, porter leur croix, aller à la mort, le lieu du crâne, pour y mourir à soi-même. Non pas pour sauver le monde, mais pour muter J'en reviens à ce que j'ai dit l'autre jour au sujet de muter. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans être mort à soi-même. C'est clair, c'est net, c'est dit, c'est biblique. Le baptême du crâne, Golgotha, Jean 19, 17, méditez ces choses. On est loin de l'évangile superficiel de l'abondance. Ça c'est. Il y en a qui ne comprennent même pas cet évangile tout simple de semer, vous récolterez, donner, vous recevrez, prier, demander, vous recevrez. Il y en a, ils n'ont même pas compris ça. Comment voulez-vous qu'ils comprennent plus? Hein, très difficile. C'est des petits crânes, quoi, des petites morts. Voilà pourquoi nous sommes dans cette condition mortelle, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi nous sommes dans la condition mortelle. Nous devons passer par la mort. Non seulement la mort physique, mais notre mort, notre mort à nous-mêmes. Nous naissons innocents, comme Adam, placés dans une famille, comme Adam au jardin. Nous recevons un prénom, nous recevons une éducation qui nous conduit sur le chemin. Et s'il n'y a pas de famille, le travail est plus difficile. Et s'il y a une famille mais qu'il n'y a pas d'éducation, le travail aussi est difficile. Vous avez des gens qui n'ont pas éduqué leurs enfants. Leurs enfants, c'est des bons à rien, qui ne savent rien faire, même pas faire chauffer une casserole d'eau. C'est malheureux, ce sont des pauvres gens, vous savez, des parents qui leur ont pas donné d'éducation. Alors ils ont reçu un prénom, c'est déjà pas mal. Maintenant il faut qu'ils aillent voir leur prénom pour pouvoir corriger tout ce qui est à corriger. Et ça c'est un travail, afin de pouvoir arriver au point de recevoir le nom sur ce caillou blanc. Et de nos jours, les enfants, par millions, stagnent et se laissent dévorer par les démons, tout simplement parce que la famille s'est complètement éclatée, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Alors si les parents ne divorcent pas, ce qui est déjà rare, eh bien ils restent ensemble, mais ils ne s'occupent pas de leurs enfants. Moi, du temps de quand j'étais enfant, mes parents ne voulaient pas la télévision, ils disaient tous les gens qui ont la télévision, leurs enfants sont des cancres. Ils placent leurs enfants devant la télévision plutôt que de parler avec eux. Aujourd'hui, c'est plus la télévision, les enfants, ça les intéresse plus la télévision, c'est les jeux. Hein? Et, ben, les parents jouent et puis les enfants ben, jouent aussi. Voilà. Ben, ça ne veut pas dire que c'est mal de jouer, mais ça ne donne pas une éducation. Il faut éduquer les enfants. Ça fait des années que je le dis, que je le chante, que je le répète, et on dit que je suis autoritaire et que je suis méchant. Et quand je dis qu'il faut éduquer les enfants, leur apprendre à dire merci, bonjour, on dit mais ça se fait plus, maintenant il n'y a plus personne qui fait ça. Bon, d'accord, vous avez raison, c'est bien, continue. Mais j'insiste et j'insisterai encore toujours, parce qu'il y aura toujours quand même sur cette terre des gens qui vont comprendre. L'œuvre des parents et l'éducation, c'est très important. Apprenez à vos enfants non seulement les bonnes manières, mais l'apprentissage aussi de la vie. Éduquez-les pour qu'ils soient mis sur le chemin de leur intériorité. Ils ont une vie intérieure, ils doivent la découvrir. Ils ont un prénom que vous leur avez donné. C'est Dieu qui vous a inspiré de leur donner ce prénom. Ils doivent connaître la signification de leur prénom dès le plus jeune âge, afin d'apprendre à corriger ce qui doit être corrigé. Pour qu'ils reconnaissent où est la sagesse et qu'ils l'épousent, qu'ils prennent la sagesse dans leur vie. Mais non, on leur donne des jeux les plus idiots qui puissent être et on les laisse devenir des enfants rois plutôt que de les aider à découvrir leur véritable royauté, leur ligne royale, leur origine divine. Ça, bon, ils choisiront quand ils seront plus grands. Ah ben non, ils choisiront rien du tout quand ils seront plus grands. C'est pas vrai. Les parents, Dieu a inventé ce truc de la famille, qui est quelque chose d'extraordinaire. Justement pour que les parents donnent l'éducation aux enfants. Je lisais aujourd'hui un proverbe, je sais plus, je crois que c'est un proverbe africain qui dit « Il est vrai que le jeune marche plus vite que le vieux, mais le vieux connaît la route. » C'est beau, hein? C'est très beau. Voilà, je voulais vous dire ça ce soir. Vous avez donné un prénom à vos enfants. Conduisez-les sur le chemin au bout duquel ils pourront recevoir leur nom divin sur ce caillou blanc. Regardez avec eux la signification de leur prénom. Regardez les points forts, regardez les points faibles. Montrez-leur que c'est quelque chose de très précieux. C'est pas vous qui avez décidé, c'est Dieu qui vous a donné de leur donner ce nom-là. Eh bien, maintenant aller jusqu'au bout, éduquer-les, donner-leur ce dont ils ont besoin, afin que, quand le jour viendra, ils puissent recevoir leur vrai nom et non pas. Là, c'est juste le prénom, le nom avant le nom. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Bénis mes frères et sœurs et permets que ceux qui ont pris du retard dans l'éducation de leurs enfants se mettent au travail et se repentent et fassent ce qui est à faire. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Amen. Amen.